Chapitre 14. Le pistolero entreprit donc de leur raconter le plus récent chapitre de sa longue histoire. Eddie en avait déjà entendu des fragments épars, mais il l'écouta avec autant de fascination que Susanna, pour laquelle il était complètement inédit. Il leur parla du bar dans un coin duquel se déroulait une interminable partie de cartes. Il leur parla de Cheb, le pianiste, d'Ali, la femme à la cicatrice sur le front, et de Nort, le mangeur d'herbe du diable, qui était mort et que l'homme en noir avait ramené à un semblant de vie dans l'ombre. Il leur parla de Sylvia Pittston, ce parangon du fanatisme religieux, et de l'ultime massacre apocalyptique au cours duquel lui-même, Roland le pistolero, avait tué tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de la ville. « Sacré nom de Dieu !» murmura Eddie d'une voix tremblante. « Je comprends pourquoi t'étais presque à court de munitions. »«
Tais-toi !» dit sèchement Susanna. « Laisse-le finir !»
Roland reprit le cours de son récit, aussi impassible que lorsqu'il avait traversé le désert après avoir laissé derrière lui la hutte du dernier frontalier, un jeune homme dont l'abondante chevelure rousse descendait presque jusqu'à la taille. Il leur raconta la mort de sa mule. Il leur précisa même que Zoltan, le corbeau du frontalier, lui avait dévoré les yeux. Il leur parla des longues journées et des courtes nuits qu'il avait vécues dans le désert, des vestiges refroidis des feux de Walter qu'il avait suivis le long de son chemin, et du relais où il était enfin parvenu, sur le point de succomber à la déshydratation. Le relais était désert. Je pense qu'il devait être désert depuis l'époque où ce grand ours était flambant neuf. J'y ai passé une nuit avant de reprendre la route. Voici ce qui s'est passé. Mais à présent, je vais vous conter une autre histoire.
Celle qui n'est pas vraie, mais qui devrait l'être, demanda Susanna.
Roland hocha la tête. Dans cette histoire inventée, dans cette fable, un pistolero nommé Roland a rencontré au relais un jeune garçon nommé Jake. Il venait de votre monde, de votre ville de New York, et d'un camp situé quelque part entre le 1987 d'Eddie et le 1963 d'Odetta Holmes. Eddie se pencha en avant, l'air excité.
Est-ce qu'il y a une porte dans cette histoire, Roland? Une porte où il est écrit « le garçon » ou quelque chose en ce genre?
Roland secoua la tête. Le seuil qu'a franchi le garçon était celui de la mort. Il était en route pour l'école lorsqu'un homme, Walter, du moins le croyais-je, l'a poussé sur la chaussée où il a été écrasé par une automobile. Il a entendu cet homme dire quelque chose comme « Écartez-vous, laissez-moi passer, je suis prêtre !» Jake a vu cet homme, rien qu'un instant. Puis il s'est retrouvé dans mon monde. Le pistolero marqua une pause et contempla les flammes. Maintenant, oublions une minute l'histoire du garçon qui n'a jamais été là, et revenons à ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Eddie et Susanna échangèrent un regard intrigué, puis Eddie fit un geste de la main pour inviter Roland à poursuivre. Le relais était désert, comme je vous l'ai dit. Mais il s'y trouvait néanmoins une pompe en état de marche. Elle était derrière l'étable où on abritait les chevaux des diligences. Je l'ai repérée grâce à mon ouïe, mais je l'aurais quand même localisée si elle n'avait fait aucun bruit. Je sentais l'eau, voyez-vous. Quand on a passé assez de temps dans le désert, quand on est sur le point de mourir de soif, on est capable de telles prouesses. J'ai bu et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'ai encore bu. Je voulais reprendre la route sans délai. Ce besoin me dévorait comme une fièvre. La médecine que tu m'as apportée de ton monde, l'astine, est quelque chose de merveilleux, Eddie. Mais il est possible de guérir de certaines fièvres, et celle-ci était du nombre. Je savais que mon organisme avait besoin de repos, mais j'ai dû mobiliser toutes les ressources de ma volonté pour ne passer qu'une seule nuit au relais. Le matin venu, je me sentais reposé, et j'ai repris ma route. Et je n'ai pris que de l'eau dans ce relais. C'est l'élément le plus important de mon histoire. » Susan prit la parole, adoptant les accents posés et mélodieux d'Aletha Holmes. « D'accord, c'est ce qui s'est vraiment passé. Tu as rempli tes outres et tu es reparti. Maintenant, raconte-nous le reste de ce qui ne s'est pas passé, Roland. » Le pistolero posa la mâchoire sur ses genoux, serra les poings et se frotta les yeux, un geste curieusement enfantin. Puis il s'empara de nouveau de la mâchoire, comme pour reprendre courage, et poursuivit. « J'ai hypnotisé le garçon qui n'était pas là, » dit-il. « Je l'ai fait à l'aide d'une de mes cartouches. Ça fait des années que je connais ce tour-là, depuis que Martin, le magicien de la cour de mon père, me l'a enseigné. Le garçon était un très bon sujet. Pendant qu'il était en état de transe, il m'a narré les circonstances de sa mort telles que je viens de vous les exposer. Lorsque j'ai estimé que je n'en apprendrais pas davantage sans le troubler ou lui faire du mal, je lui ai ordonné d'oublier tous les détails de sa mort une fois qu'il se réveillerait. « Mais c'est pas le genre de souvenir qu'on souhaite chérir, » marmonna Heidi. « En effet, » acquiesça Roland, « le garçon est passé directement de sa transe à un sommeil profond. Je me suis endormi à mon tour. Quand nous nous sommes réveillés, je lui ai dit que j'avais l'intention de rattraper l'homme en noir. Il savait de qui je parlais. Walter avait également fait état pour relais. Jack avait pris peur et était resté caché. Je suis sûr que Walter savait qu'il était là, mais cela l'arrangeait de prétendre le contraire. Il a laissé le garçon sur ma route, en guise de piège. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose à manger dans les parages. Cela me semblait plus que probable. Le garçon avait l'air en bonne santé et les choses se conservent merveilleusement bien dans le désert. Il avait sur lui un peu de viande séchée et il m'a dit que le relais était pourvu d'une cave. Il ne l'avait pas explorée parce qu'elle lui faisait peur. Le pistolero les regarda d'un air sombre. Il ne se trompait pas. Dans la cave, j'ai trouvé de la nourriture et j'ai aussi trouvé un démon qui parle. Eddie regarda la mâchoire en écarquillant les yeux. La lueur orange des flammes dansait sur ses anciennes courbes et sur ses dents pointues. Un démon qui parle ? Tu veux dire ce truc ? Non. Oui, les deux. Écoute, et tu comprendras. Il leur parla des gémissements inhumains qu'il avait entendus monter de la terre dans la cave, du sable qu'il avait vu couler entre deux des vieux moellons du mur. Il leur dit comment il s'était approché du trou en formation pendant que Jake lui hurlait de remonter. Il avait ordonné au démon de parler, et le démon s'était exécuté, prenant pour cela la voix d'Ali, la femme au front orné d'une cicatrice, la femme qui tenait le bastringue de Tull. « Va lentement, pistolero, passez les monts des Drawers. Prends garde au Taïn. Aussi longtemps que tu voyageras avec ce garçon, l'homme en noir voyagera avec ton âme dans sa poche. »« Les monts des Drawers ?» demanda Susan à surprise. « Oui, » Roland la dévisagea. « Ça veut dire quelque chose pour toi, n'est-ce pas ?»« Oui et non. » Elle parlait avec une hésitation sensible. Cela venait sûrement de sa répugnance à évoquer des choses qui lui étaient douloureuses, estima Roland. Mais elle souhaitait aussi sans doute ne pas brouiller des cartes qu'il était déjà suffisamment. Il admirait son attitude. Il l'admirait, elle. « Ne parle que de ce dont tu es sûr, dit-il. Ne dis rien de plus. » « D'accord. » Les Drawers étaient un endroit que Detta Walker connaissait bien, un endroit auquel elle pensait. C'est un terme d'argot, un terme qu'elle a appris en écoutant les grands quand ils s'asseyaient sur le perron pour parler du bon vieux temps. Dans leur bouche, les Drawers étaient un endroit pourri ou inutile, ou les deux. Il y avait dans les Drawers, dans l'idée des Drawers, quelque chose qui attirait Detta. Ne me demande pas ce que c'était, peut-être l'ai-je su. Mais je ne le sais plus, et je ne veux pas le savoir. Detta a volé le plat en porcelaine de tante bleue, celui que mes parents lui avaient offert pour son mariage, et l'a emporté aux drawers, ses drawers, pour le casser. C'était une fosse emplie d'ordures, un dépotoir. Plus tard, elle allait parfois lever des garçons dans les bars. Susanna baissa la tête quelques instants, les lèvres serrées à se les mordre. Puis elle leva les yeux et poursuivit. Des garçons blancs. Et quand il l'avait fait monter dans leur voiture garée sur le parking, elle les aguichait, puis prenait la fuite. C'était aussi les drawers. Ce petit jeu était dangereux, mais elle était assez jeune, assez vive et assez méchante pour y jouer jusqu'au bout et pour en jouir. Plus tard, à New York, elle partait pour des expositions de vol à l'étalage. Mais vous le savez déjà, tous les deux. Et toujours dans les grands magasins les plus huppés, Macy's, Gimbel's, Bloomingdale's, et toujours pour y voler de la camelote. Chaque fois qu'elle était d'humeur à partir pour une telle expédition, elle se disait
« Je vais aller au Drummers aujourd'hui. Je vais aller voler de la merde au fromage blanc. Je vais aller voler quelque chose pour les grandes occasions, et ensuite, je le casserai en 1000 morceaux. »
Elle marqua une pause, les lèvres tremblantes, les yeux fixés sur le feu. Lorsqu'elle redressa la tête, Rallant et Eddie virent des larmes perler à ses paupières. « Ne vous laissez pas abuser par mes larmes. Je me rappelle avoir fait ces choses, et je me rappelle en avoir joui. Si je pleure, c'est sans doute parce que je sais que je m'empresserai de recommencer si les circonstances me le permettaient. » Rallant semblait avoir en partie recouvré sa vieille sérénité, son étrange équilibre. « Il existe un proverbe dans mon pays, Susanna. Le voleur avisé ne manque jamais de prospérer. » « Je ne vois pas ce qu'il y a d'avisé à voler de la camelote, » répliqua-t-elle sèchement. « Est-ce que tu t'es jamais fait prendre ?»«
Non. »
Il écarta les mains comme pour dire.
« Et voilà. »
« Donc, pour Detta Walker, les Drawers étaient un lieu maléfique ?» demanda Eddie. « C'est bien ça ?»«
Parce que ça me paraît pas exactement collé. »
À la fois maléfique et bénéfique, c'était un lieu puissant, un lieu où elle se réinventait, je suppose qu'on pourrait le formuler ainsi, mais c'était aussi un lieu désolé.
Et tout cela n'a rien à voir avec le garçon fantôme de Rallant, n'est-ce pas ?
Peut-être pas, dit Rallant. Les Drawers existent aussi dans mon monde, vois-tu ? C'est aussi un terme d'argot, et le sens en est très semblable.
« Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi et tes amis ?» demanda Eddie.
Le sens variait légèrement en fonction de l'endroit et de la situation. Un dépôt d'ordures, un bordel ou un boui-boui où l'on joue aux cartes en fumant de l'herbe du diable. Mais le sens le plus communément répandu que je connaisse est aussi le plus simple. Il les regarda tous les deux. « Les Drawers sont un lieu de désolation, » dit-il. « Les Drawers... » Ce sont les terres perdues.